Chapitre 9. On fait quelques autres recherches touchant les mêmes livres, pour savoir notamment si Ezra s'y a mis la dernière main, et si les notes marginales qu'on trouve sur les manuscrits hébreux étaient des leçons différentes. On ne peut douter que les recherches auxquelles nous venons de nous livrer sur le véritable auteur de plusieurs livres de la Bible ne soient d'un très grand secours à quiconque les veut entendre parfaitement. Qu'on examine en effet les passages que nous avons cités pour établir notre opinion, et l'on reconnaîtra qu'elle seule en peut donner la clé. Mais ce n'est pas tout. Et pour bien connaître les livres dont il s'agit, on doit noter encore beaucoup d'autres circonstances sur lesquelles la superstition ferme les yeux aux vulgaires. La principale, c'est qu'Esdras, qui reste pour moi l'auteur de ces livres jusqu'à ce qu'on en désigne un autre à de meilleurs titres. Esdras, dis-je, n'a pas mis la dernière main à son ouvrage et s'est borné à emprunter à divers auteurs des récits historiques qu'il a simplement enregistrés le plus souvent sans les examiner ni les mettre en ordre. Qu'est-ce qui a pu l'empêcher de revoir et d'accomplir ce travail, je ne puis le dire, à moins d'admettre que ça a été une mort soudaine et prématurée. Mais toujours est-il que le fait est certain, et qu'il résulte évidemment du petit nombre de fragments que nous avons encore des anciens historiens hébreux. Ainsi, l'histoire d'Ischias, à partir du verset 17 du chapitre 18 du livre 2 des Rois, a été calquée sur la relation d'Ésaïe telle qu'on dut la trouver dans la chronique des rois de Juda. La preuve, c'est que nous rencontrons cette relation tout entière dans le livre d'Ésaïe, lequel faisait partie de cette chronique. Voyez Paralip, livre 2, chapitre 32, avant-dernier verset. Et nous les rencontrons conçues exactement dans les mêmes termes que celles des rois, à très peu d'exceptions près. Hors de ces rares exceptions, on ne peut conclure rien d'autre chose, sinon qu'il y avait plusieurs leçons différentes de la relation d'Ésaïe, à moins qu'on aille imaginer là-dessous quelques mystères. Ajoutez que le dernier chapitre de ce livre 2 des Paralipomènes est également contenu dans Jérémie, chapitre 39, 40 et dernier. De plus, le chapitre 7 du livre 2 de Samuel se retrouve dans le chapitre 17 du livre 1 des Paralipomènes. Seulement, les expressions sont en plusieurs endroits si diverses qu'il est aisé de reconnaître que ces deux chapitres ont été tirés de deux exemplaires différents de l'histoire de Nathan. Enfin, la généalogie des rois d'Idumée qu'on voit dans la Genèse, à partir du verset 30 du chapitre 36, on la rencontre encore à un autre endroit, Paralipomène, livre 1, chapitre 1, et dans les mêmes termes, bien qu'il soit parfaitement établi que l'auteur de ce dernier livre n'a pas emprunté ses récits aux 12 livres d'Esdras, mais à d'autres historiens. Il ne faut donc point douter que l'origine que nous assignons à la Bible ne devint évidente par le fait, si nous avions sous la main les anciens historiens hébreux. Mais puisqu'ils sont perdus, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'examiner les récits mêmes des 12 premiers livres de l'Écriture, d'en reconnaître l'ordre et l'enchaînement, de noter enfin les répétitions et les contradictions chronologiques qui s'y peuvent rencontrer. C'est ce que nous allons faire, sinon pour tous ces récits, du moins pour ceux qui ont le plus d'importance. Nous commencerons par l'histoire de Juda et de Tamar qui s'ouvre dans la Genèse en ces termes. Or, il arriva qu'en ce temps-là, Juda se sépara de ses frères. De quel temps s'agit-il ? Évidemment, de celui qui vient d'être immédiatement déterminé. Mais il se trouve que dans l'état présent de la Genèse, la chose est impossible. Car depuis l'époque où Joseph fut mené en Égypte, jusqu'à celle où le patriarche Jacob s'y rendit avec toute sa famille, il ne peut s'être écoulé que 22 ans, puisque Joseph n'en avait que 17 quand il fut vendu par ses frères, et 30 quand Pharaon le fit sortir de prison. Or, si vous ajoutez les 7 années d'abondance et les 2 de famine, tout cela fait ensemble 22 ans. Mais qui pourra comprendre qu'en si peu d'années, il y ait eu place pour tous les événements que raconte la Genèse ? Savoir que Juda a eu successivement 3 enfants d'une seule femme, que l'aîné de ses enfants a épousé Tamar, que le second, après la mort de l'aîné, se soit marié avec sa veuve, laquelle, après avoir vu mourir son second mari, eut commerce avec Juda qui, sans savoir qu'elle fut sa bru, en eut 2 jumeaux, dont l'un put même devenir père, tout cela dans l'espace de temps assigné plus haut. Il est donc évident qu'il faut rapporter tous ces événements, non point à l'époque dont parle la Genèse, telle que nous l'avons aujourd'hui, mais à une époque toute différente, laquelle devait être marquée primitivement dans le livre qui précédait notre récit. D'où l'on voit que Ezra s'est borné à enregistrer cette histoire de Juda et Tamar à la suite d'autres récits, sans l'examiner de bien près. De même encore, emprunté à des sources très diverses. tant il y a peu d'accord dans ce récit. Au rapport de la Genèse, Jacob avait 130 ans la première fois que Joseph le présenta à Pharaon. Si vous en retranchez les 22 années qu'il passa dans la tristesse à cause de l'absence de Joseph, les 17 ans qu'avait Joseph quand il fut vendu, et même les 7 ans d'épreuve auxquels Jacob dut se soumettre avant d'épouser Rachel, vous trouverez que ce patriarche devait être extrêmement âgé, savoir de 84 ans, lorsqu'il prit Lia pour épouse. Au contraire, il se trouve que Dina avait à peine 7 ans quand elle fut violée par Sichem, et que Simon et Lévi étaient âgés tout au plus de 11 ou 12 ans quand ils pillèrent une ville et en passèrent tous les habitants au fil de l'épée. Mais il est inutile de pousser plus loin cet examen du Pentateuque, puisqu'un peu d'attention suffit pour faire voir que tout dans ces 5 livres, préceptes et récits, est écrit pêle-mêle et sans ordre, que la suite des temps n'y est pas observée, que les mêmes récits reviennent à plusieurs reprises et souvent avec de graves différences. En un mot, que cet ouvrage n'est qu'une réunion confuse de matériaux que l'auteur n'a point eu le temps de classer et d'ordonner régulièrement. Il faut en dire autant des 7 livres qui suivent le Pentateuque. Qui ne voit par exemple, au chapitre 2 des Juges, qu'à partir du verset 6, l'auteur compile un nouvel historien qui avait également écrit la vie de Josué et le copie littéralement. En effet, au dernier chapitre de Josué, nous trouvons le récit de sa mort et de son ensevelissement. Or, au commencement de ce livre, l'auteur avait promis de raconter les événements qui suivirent la mort de Josué. Si donc, il avait voulu, en commençant le livre des Juges, reprendre le fil de son récit, pourquoi aurait-il recommencé à nous parler de Josué ? Il n'est pas moins évident que les chapitres 17, 18, etc. du livre 1 de Samuel ne sont pas empruntés au même historien que l'auteur avait suivi jusque-là, car on explique dans ces chapitres tout autrement qu'au chapitre 16 du même livre pourquoi David commença à fréquenter la cour de Saül. Au chapitre 16, Saül, par le conseil de ses serviteurs, mande David auprès de lui. Ici, les choses se passent tout autrement. Le père de David l'envoie vers ses frères au camp de Saül. Et David engage avec le Philistin Goliath un combat dont il sort victorieux, ce qui le fait connaître au roi et l'introduit dans son palais. Je soupçonne encore qu'au chapitre 16 de ce même livre, l'auteur répète, sous l'impression d'une opinion différente, les mêmes récits qui se trouvent déjà au chapitre 24. Mais il est inutile d'insister davantage, et j'aime mieux passer immédiatement à l'examen de la chronologie de l'écriture. Au chapitre 6 du livre 1 des rois, il est dit que Salomon bâtit le temple l'an 480 de la sortie d'Égypte. Mais si nous consultons l'histoire, nous trouverons un intervalle de temps beaucoup plus étendu. En effet, Moïse gouverna le peuple dans le désert pendant 40 années. Josué, qui vécut 110 ans, n'eut le commandement, d'après Joseph et d'autres historiens, que durant 26 années. Cusan Rishathaïm tint le peuple sous son empire 8 années. Othniel, fils de Hénas, fut juge pendant 40 années. Eglo, roi de Moab, 18 années. Eud et Samgar furent juges pendant 80 années. Jachin, roi de Canaan, tint le peuple sous son joug 20 années. Le peuple, après un repos de 40 années, retomba en servitude sous la domination de Midian durant 7 années. Il reprit la liberté au temps de Gédéon, 40 années. Puis il fut soumis par Abimelech, 33 années. Tola, fils de Pua, fut juge durant 23 années. Jaïr durant 22 années. Le peuple tomba de nouveau sous la domination des Philistins et des Ammonites durant 18 années. Jephthah fut juge durant 6 années, Absalom le Bethléemite 7 années, Élon le Sébulonite 10 années, Abdan le Piratonite 8 années. Le peuple tomba sous le joug des Philistins 40 années, Samson fut juge 20 années, Élie 40 années. Le peuple, soumis encore une fois par les Philistins, ne fut délivré par Samuel qu'après un intervalle de 20 années. David régna 40 années, Salomon, avant de bâtir le temple, régna 4 années. Toutes ces années réunies composent une somme de 580 années. Or, il faut encore ajouter les années qui suivirent la mort de Josué, pendant lesquelles la nation hébraïque se maintint en grande prospérité, jusqu'au moment où Cusan Rishathaïm la réduisit en servitude. Et cette période prospère a dû être d'assez longue durée, car il est difficile de croire qu'aussitôt après la mort de Josué, tous ceux qui avaient été témoins de ses prodigieux exploits aient péri en un seul moment, que leurs descendants, abolissant un continent les lois, soient tombés d'un seul coup au dernier degré de la lâcheté et de la famille. Il n'est pas vraisemblable enfin que Cusan Rishathaïm n'ait eu qu'à vouloir les soumettre pour en venir aussitôt à bout. Chacun de ces événements exigeant presque un siècle entier, il ne faut donc pas douter que l'Écriture n'embrasse dans les versets 7, 9 et 10 du livre des Juges un grand nombre d'années dont l'histoire est passée sous silence. À ces années omises, il faut joindre celle où Samuel fut juge des Hébreux et dont l'écriture ne marque pas le nombre. Ce n'est pas tout. On doit y ajouter encore les années du règne de Saül que j'ai omises à dessein dans la table précédente, parce que l'histoire de Saül ne fait point connaître assez clairement la durée précise de son règne. Il est dit, à la vérité, au chapitre 13 du livre 1, verset 1 de Samuel, que Saül régna 2 ans. Mais ce texte est évidemment tronqué, et il résulte de l'histoire de ce roi qu'il a régné beaucoup plus longtemps. Pour s'assurer que le texte est tronqué effectivement, il suffit de ne pas ignorer les premiers rudiments de la langue hébraïque. Voici en effet les paroles de l'écriture. Saül était âgé 2 quand il commença de régner, et il régna 2 ans sur Israël. Qui ne voit que l'âge de Saül commençant son règne est omis dans ce passage. Reste donc à prouver seulement, par l'histoire de Saül, qu'il a régné plus de 2 ans. Or, il est dit au chapitre 27 du même livre, verset 7, que David demeura 1 an et 4 mois parmi les Philistins, chez qui il s'était réfugié pour se mettre à l'abri de la colère de Saül. Il faudrait donc que le reste du règne de Saül ne durait que 8 mois, ce qui est absurde et hors de toute vraisemblance, du moins d'après Joseph qui, dans ses Antiquités, à la fin du livre 6, corrige ainsi le texte de l'Écriture. Saül régna 18 ans du vivant de Samuel et 2 ans après sa mort. Ajoutez à cela que cette histoire du chapitre 13 n'a aucun rapport à ce qui précède. Sur la fin du chapitre 7, il est dit que les Philistins furent défaits par les Hébreux, de sorte qu'ils n'osèrent plus les attaquer tant que vécut Samuel. Et dans le 13e, que les Hébreux furent tellement pressés par les Philistins, Samuel vivant encore, et réduit à une telle extrémité qu'il n'avait plus d'armes pour se défendre, ni aucun moyen d'en fabriquer. On voit que ce ne serait pas une entreprise facile que de concilier tous les récits historiques du premier livre de Samuel, et de les ajuster si bien l'un à l'autre qu'il sembla qu'une seule main les eût tracés et mis en ordre. Mais je reviens à mon sujet et je conclus qu'il faut ajouter à notre compte les années du règne de Saül. On peut remarquer que je n'ai pas compté non plus les années de l'anarchie des Hébreux. C'est que l'écriture n'en marque pas le nombre. Or il est impossible, je le répète, de fixer la durée des événements qui sont racontés dans le livre des juges à partir du chapitre 17 jusqu'à la fin. Tout cela prouve donc bien que les récits historiques de la Bible ne sont pas réglés par une exacte chronologie et que, bien loin de s'accorder entre eux, ils contiennent souvent des choses très diverses, d'où il faut conclure que ces récits ont été empruntés à des sources différentes et enregistrés sans critique et sans ordre. Il n'y a pas moins de désaccord dans la supputation des années entre les chroniques des rois d'Israël et celles des rois de Juda. Ainsi, il est dit aux chroniques des rois d'Israël, voyez Roi, livre 2, chapitre 1, verset 17, que Jéhoram, fils d'Agab, commença de régner la seconde année du règne de Jéhoram, fils de Jéhoshaphat. Et dans les chroniques des rois de Juda, voyez Ibid, chapitre 8, verset 16, que Jéhoram, fils de Jéhoshaphat, commença de régner la 5e année du règne de Jéhoram, fils d'Agab. Que l'on compare les paralipomènes avec les rois, on trouvera une foule de discordances semblables. Et il n'est point nécessaire d'en faire ici le dénombrement, et moins encore de discuter les suppositions statistiques des commentateurs qui ont voulu résoudre toutes ces contradictions. Sur ce point, les rabbins tombent dans un vrai délire. D'autres interprètes que j'ai également lus ne paraissent pas dans leur bon sens tant ils corrompent le texte par les inventions les plus chimériques. Par exemple, on trouve au livre 2 des paralipomènes qu'Agazi a été âgé de 42 ans quand il commença de régner. Or voici les commentateurs qui imaginent de compter ces années, non point à partir de la naissance d'Agazia, mais depuis le règne d'Omri. Il faudrait donc, pour attribuer une telle pensée à l'auteur des paralipomènes, supposer qu'il ne savait point dire ce qu'il avait l'intention de dire. Je pourrais citer beaucoup d'autres imaginations que cette espèce, qui n'iraient à rien moins si elles étaient vraies qu'à faire croire que les Hébreux ignoraient leur propre langue, que l'ordre des événements était pour eux une chose inconnue, par conséquent, qu'il n'y a aucune règle, aucune méthode pour interpréter l'écriture, et qu'on y peut voir tout ce qu'on voudra. Quelqu'un dira peut-être que je raisonne ici d'une manière trop générale et que mes preuves ne sont pas suffisantes. Ma réponse, c'est que je prie qu'on veuille bien marquer un ordre déterminé dans les récits historiques de l'écriture, de telle façon qu'on y puisse établir une exacte chronologie. Je prie aussi qu'en interprétant les témoignages de l'historien et les mettant d'accord les uns avec les autres, on n'altère en rien les phrases et les tours dont il s'est servi, ainsi que la disposition et la conjecture de ces récits, tout cela avec une si grande fidélité que l'on puisse prendre pour règle en écrivant soi-même des phrases hébraïques, la manière d'expliquer celle de l'écriture. Que si quelqu'un parvient à satisfaire à toutes ces conditions, je déclare que j'en passerai par tout ce qu'il voudra et le regarderai comme un oracle. Pour ma part, j'ai cherché longtemps à réaliser le plan que je viens de tracer, mais j'avoue qu'il m'a été impossible d'y réussir. J'ajoute qu'il n'y a pas une seule de mes opinions sur l'écriture qui ne soit le fruit d'une longue méditation. Et bien que, dès mon enfance, j'ai été habitué aux sentiments ordinaires qu'on a sur les livres saints, je n'ai pu m'empêcher d'être conduit à ceux que je professe actuellement. Mais il est inutile d'arrêter le lecteur sur de pareils détails et de l'exciter à entreprendre une œuvre impossible. J'ai voulu seulement expliquer plus clairement mon opinion en mettant la difficulté dans tout son jour. Je vais donc poursuivre l'examen que j'ai commencé de la destinée des livres de l'écriture. Il faut observer en premier lieu que les dépositaires de ces livres ne les ont pas gardés avec un tel soin qu'il ne s'y soit glissé aucune faute. Car les plus anciens d'entre les scribes y ont remarqué plusieurs leçons douteuses et en outre quelques passages tronqués. Et certes, ils ne les ont pas relevés tous. Maintenant, la question est de savoir si ces fautes sont de nature à embarrasser et à égarer le lecteur. Je ne veux point discuter à fond ce point. Je dirai seulement que je n'attache pas grande importance à ces altérations et quiconque lira l'écriture sans préjugés sera du même avis. Car pour ma part, je puis affirmer que je n'ai jamais remarqué dans la Bible aucune faute assez grave, ni en ce qui touche les principes moraux, aucune différence de leçon assez considérable pour rendre le sens douteux ou absurde. Pour tout le reste, on est assez d'accord que le texte n'est point gravement altéré. La plupart même soutiennent que Dieu, par un témoignage singulier de sa providence, a maintenu les Écritures dans un état de parfaite pureté, et les leçons diverses ne sont à leurs yeux que le signe de profonds mystères. Ils expliquent de même les astérisques qui se trouvent au milieu du paragraphe 28, il n'y a pas jusqu'aux extrémités des lettres hébraïques où ils n'aperçoivent de grands secrets. Est-ce l'effet d'une dévotion aveugle et stupide, ou d'un orgueil coupable qui les porte à se donner comme seuls dépositaires des secrets de Dieu? Je ne sais trop, mais ce que je sais bien, c'est que je n'ai jamais rencontré dans leurs écrits que les superstitions puériles à la place des secrets qu'ils prétendent posséder. J'ai voulu lire aussi et j'ai même vu quelques-uns des kabbalistes, mais je déclare que la folie de ces charlatans passe tout ce qu'on peut dire. On me demandera peut-être de prouver ce que j'ai avancé tout à l'heure, que plusieurs fautes se sont glissées dans le texte de l'Écriture. Mais je ne crois pas qu'aucun homme de bon sens en doute un seul instant, après avoir lu le passage sur Saül que nous avons cité plus haut. Voyez Samuel, livre 1, chapitre 13, verset 11, auquel on peut joindre celui-ci. Ibid, livre 2, chapitre 6, verset 2. Et David se leva, et il partit de Juda avec tout le peuple, afin d'en emporter l'arche de Dieu. Chacun peut voir aisément que le lieu où David se rendit de Juda pour en emporter l'arche, savoir Kirjath-Jéraïm, est omis dans le texte. On reconnaîtra également que le passage suivant de Samuel, livre 2, chapitre 13, verset 37, est altéré et tronqué. Et Absalom prit la fuite, et il alla vers Ptolémée, fils d'Amihud, roi de Gézard, et il pleurait tout le jour son fils. Et Absalom prit la fuite et alla vers Gézard, où il resta 3 années. Je me souviens d'avoir noté plusieurs passages de même sorte dans l'Écriture qui en ce moment ne me reviennent point. Reste à résoudre cette question. Si les notes marginales qu'on rencontre, ça et là, sur les exemplaires hébreux de l'Écriture, sont ou non des leçons douteuses. On n'hésitera pas à résoudre cette question par l'affirmative si l'on considère que la plupart de ces notes marginales ont pour origine l'extrême ressemblance des lettres hébraïques. Par exemple, Kaf ressemble à Bet, Yod à Vo, Dalet à Resh, etc. Ainsi, dans un passage de Samuel, livre 2, chapitre 5, avant-dernier verset, où il dit « Et au temps où vous entendrez », nous trouvons à la marge « Quand vous entendrez ». De même dans les Juges, chapitre 21, verset 22, au passage qui porte « Et quand leurs pères et leurs frères viendront vers nous en multitude », c'est-à-dire souvent, on trouve à la marge « Pour se plaindre ». Je pourrais citer une foule de notes marginales de cette espèce. Il en est d'autres qui sont devenues nécessaires à cause de l'emploi de ces lettres qu'on appelle muettes et dont la prononciation est si peu marquée qu'elles se prennent souvent l'une pour l'autre. Par exemple, à côté de ce passage du Lévitique, chapitre 25, verset 17, « Et la maison qui est dans une ville sans muraille restera en la possession du propriétaire », on trouve à la marge « Ville entourée de murailles ».